comme le principal ennemi. Ce mouvement nationaliste, il a une branche politique qui réclame l'autonomie et l'indépendance, et il a aussi une branche armée. Et cette branche armée opère essentiellement par des actions violentes contre des civils et des actes terroristes, mais qui sont en premier lieu dirigés contre l'État polonais. Alors, le début de la Seconde Guerre mondiale dans cette partie de l'Europe est très marqué par la signature du pacte de non-agression entre l'Allemagne nazie et la Russie soviétique, et notamment par son protocole additionnel qui partage la Pologne entre la zone que l'Allemagne doit occuper et la zone que l'Union soviétique occupe. Et cette zone que l'Union soviétique est autorisée par les Allemands à occuper dans cette première phase de la guerre correspond précisément à ces territoires peuplés par une très forte minorité ukrainienne. Et donc en fait, le premier contact de ces Ukrainiens avec l'URSS, donc avec Moscou, c'est une invasion qui a lieu en 1939. Donc ce qu'ils voient de l'Union soviétique est en fait une Union soviétique d'emblée violente, parce que cette invasion ne se passe pas, c'est pas une annexion politique, ça se passe véritablement avec l'armée rouge qui avance et qui pratique des répressions violentes à l'égard des Polonais sur place, des responsables polonais, mais également à l'égard des nationalistes ukrainiens. Et donc en fait, au fur et à mesure de l'avancement de la guerre, enfin très rapidement, les nationalistes ukrainiens vont se poser la question de qui est leur principal ennemi, parce qu'ils se retrouvent entre le marteau et l'enclume, entre l'URSS soviétique et l'Allemagne nazie, et un certain nombre vont choisir l'Allemagne nazie, vont considérer que en fait, l'ennemi principal, celui que l'on a vu opérer sur le terrain, ce sont les soviétiques. Et c'est là qu'on va voir se former ces mouvements qui sont la bête noire du discours politique de Moscou, qui sont brandis en épouvantail encore aujourd'hui, qui sont les mouvements nationalistes qui se sont alliés avec les nazis. On a par exemple la division SS Galicie, mais aussi on a un certain nombre de personnes qui coopèrent avec les nazis. Si on remet ça en perspective historique, on estime qu'environ 200 000 Ukrainiens ont collaboré avec les nazis sous une forme explicite, hein, vraiment au sein des institutions, au sein des forces armées, mais que 4 millions d'Ukrainiens ont combattu les nazis. Donc la proportion ne nous permet pas de dire que l'Ukraine, par exemple, était majoritairement favorable au régime nazi. Mais néanmoins, dès les premiers moments où l'histoire de la Seconde Guerre mondiale est écrite en Union soviétique, ces Ukrainiens sont brandis en épouvantail. Épouvantail de la collaboration. Il y a aussi les Baltes qui vont être brandis également comme un épouvantail, où la situation est largement similaire en fait. Mais grosso modo, ce pan douloureux de l'histoire va vraiment devenir un moment de cristallisation d'une différence de lecture entre la Russie et l'Ukraine. Parce qu'en revanche, pour les Ukrainiens, enfin pour un certain nombre d'Ukrainiens, à partir de l'indépendance de l'Ukraine en 1991, ces nationalistes ont certes fait des choix difficiles, mais on continue à reconnaître leur rôle dans la lutte pour l'indépendance de l'Ukraine, pour l'identité ukrainienne.
En effet, certains ont été à la fois des collabos, des collaborateurs très actifs, notamment dans l'élimination des Juifs, en particulier dans ce qu'on a appelé la Shoah par balle, mais les mêmes sont parfois reconnus aussi pour être des artisans de l'indépendance de l'Ukraine, ce qui entraîne un vrai malaise, de vrais débats dans la société ukrainienne.
En Ukraine, cette question-là est une question délicate, et elle a toujours été délicate. C'est-à-dire que depuis les années 1990, quand les historiens travaillent sur cette période, ça va provoquer des débats extrêmement vifs dans la société. À chaque fois qu'il y a une conférence sur la Seconde Guerre mondiale, ça castagne énormément en fait dans les débats. À chaque fois qu'on souhaite, avant 2014, ériger un monument à tel ou tel responsable nationaliste ou nommer une rue en son honneur, ça provoque vraiment des mouvements de protestation et des mouvements de soutien. Donc voilà, c'est un épisode historique compliqué sur lequel on débat beaucoup dans la société ukrainienne. Côté russe, en revanche, on est dans cette complexité-là n'est pas du tout abordée par les historiens. Et surtout, en fait, depuis l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine et cette sorte d'uniformisation du récit historique, il n'y a plus qu'un seul récit qui subsiste, c'est celui des Russes qui ont combattu les nazis et des Ukrainiens qui ont collaboré avec les nazis.
Donc on a bien compris que ça a existé, mais que c'est une partie réduite de la population, qui peut s'expliquer aussi par un combat pour l'indépendance de l'Ukraine à ce moment-là, et d'abord vis-à-vis de la Pologne et puis vis-à-vis de la Russie. Mais il n'empêche qu'effectivement, il y a cette collaboration de ceux-là avec l'Allemagne nazie, participation assez active à la Shoah par balle et au génocide des Juifs à l'époque.
Alors, les mouvements nationalistes ukrainiens sont, comme beaucoup de mouvements nationalistes un peu extrêmes à cette époque, antisémites. Donc l'antisémitisme est très très clairement présent chez eux. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que souvent on va accuser Stepan Bandera, qui est un peu l'épouvantail de la Russie à la tête de ce mouvement nationaliste armé, d'être un collaborant actif dans l'Holocauste. Bandera lui-même, qui n'était absolument pas un personnage fréquentable, n'a jamais pu participer à la Shoah parce que pendant toute la durée de l'Holocauste, il était emprisonné lui-même par les Allemands, qui n'aimaient pas beaucoup ce personnage, et maintenu dans un camp de concentration allemand. Mais en revanche, il est certain qu'au sein de la division SS Galicie, mais aussi en collaborant au niveau local, vous avez des nationalistes qui ont très clairement pris part à la Shoah. Mais une fois de plus, là, il faut penser aux proportions. C'est-à-dire que la proportion, me semble-t-il, de la collaboration en Ukraine se retrouve dans d'autres pays européens. On est sur les mêmes logiques d'État où l'antisémitisme est extrêmement présent et où les locaux qui ont des griefs aussi contre les populations juives de leur voisinage collaborent avec les nazis. Il n'y a pas d'ambiguïté aujourd'hui en Ukraine sur cette dimension-là. Il n'y a pas de justification ni de mouvement révisionniste aujourd'hui en Ukraine. Personne ne dira en Ukraine aujourd'hui, et ça j'ai vraiment un discours que je n'ai pas entendu, que la Shoah n'a jamais eu lieu ou que les Ukrainiens n'ont pas participé. Alors bien évidemment, ils vont beaucoup plus en mettre en avant les justes de leur nation qu'ils ne vont mettre en avant les collaborants. Là où c'est un petit peu compliqué, c'est quoi faire de la figure de ceux qui ont été à la fois des combattants farouches contre l'URSS et pour la souveraineté de l'Ukraine, et qui ont participé à l'Holocauste et qui ont collaboré dans ce volet-là avec les nazis. Donc c'est autour de cela, en fait, que la mémoire va devenir beaucoup plus complexe.
Et forcément, dans une société aujourd'hui en guerre, ce regard sur l'histoire, il a tendance à changer quelque peu, influencé évidemment par la confrontation avec la Russie. Avec un regain de nationalisme qui s'accommode mal d'un regard critique sur l'histoire, un peu comme si l'invasion russe était venue modifier le regard et le discours que les Ukrainiens portent sur leur passé.
La guerre d'agression, argument que l'Ukraine est gouvernée par des néo-nazis, que les néo-nazis sont partout, quelque part, par effet de réaction, les Ukrainiens ont beaucoup plus envie de réhabiliter aujourd'hui un certain nombre de ces figures qu'ils ne le pensaient auparavant. C'est-à-dire que le débat est un petit peu moins vif. Hein. Et la figure, par exemple, de Stepan Bandera, qui était une figure pas du tout consensuelle dans la société ukrainienne, devient de moins en moins discutée. Donc, quelque part, il y a une sorte de, peut-être pas de radicalisation, mais disons de simplification de cette histoire qui est induite par la guerre elle-même.
Voilà donc